Ben, bonsoir à toutes et à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet de nos conférences, je voudrais vous faire deux annonces, deux informations. La première, une que je viens de recevoir du CRIPSA, donc qui est le Centre de recherche et d'intervention en psychanalyse appliquée à Charleroi, dont la directrice est Cathy Langelet, que vous avez déjà vue comme conférencière ici les années précédentes, nous invite à une conversation avec Nicole Roland sous le titre « Les liens de la psychanalyse et de l'écriture ». Et ça aura lieu le samedi 4 mai 2013 à Charleroi, à la librairie Molière. Et donc, je vais reprendre les informations et je vous les enverrai par mail, mais comme ça, vous savez que ça a lieu prochainement. Alors, la deuxième information que je voulais vous donner, vous savez qu'il y a un petit séminaire de lecture juste avant les conférences qui s'appelle Paragraphe, qui a lieu dans le couloir juste en face au local 112. Et donc nous sommes un tout petit groupe de lecture et nous poursuivons la lecture du petit livre du nouveau, donc le commentaire de Jacques-Alain Miller de ce séminaire 5 que nous lisons ici. Lors de la prochaine séance, on commentera la partie de ce livre sur l'Œdipe en trois temps. Et c'est la deuxième partie du livre et on reprendra dans les 10 premières minutes de notre séance qui dure une heure, on reprendra les points principaux de la première partie qui était la perspective du nouveau. Comme ça, on garde le fil conducteur. Si vous voulez y participer, vous êtes les bienvenus. Ça commence à 17h45 à ce niveau-ci dans le local juste dans le couloir en face quand vous montez le grand escalier. Alors, nous avions entendu la fois passée Monsieur Lebrun et Bogdan Kuznirek nous parler de la métaphore paternelle et de l'Œdipe en trois temps. Nous entendrons aujourd'hui Monique Kuznirek et Guy Poblom nous parler du fantasme au-delà du principe de plaisir et du désir et de la jouissance, donc les chapitres 13 et 14 du séminaire. Je vais passer la parole tout de suite à Monique Kuznirek, que je vous présente en deux mots. Elle est psychanalyste à Braine-le-Comte et à Bruxelles. Elle est membre de l'école de la cause freudienne et elle est enseignante également à la section clinique de Bruxelles. Je vous passe la parole.
Merci. Alors, je vais paraphraser le premier paragraphe concerné aujourd'hui, c'est-à-dire le fantasme au-delà du principe de plaisir. Je pense, d'après les quelques mots que j'ai échangés avec Guy, que ce que je vais faire sera introductif à ce qu'il dit, à ce qu'il va dire. Alors, donc, le titre du chapitre est à entendre, comme ça que je propose, le fantasme est à saisir dans le cadre de l'au-delà du principe de plaisir. Alors, l'au-delà du principe de plaisir, Lacan, à la fin du chapitre, page 246 exactement, il dit que l'au-delà du principe de plaisir, ça désigne le rapport fondamental du sujet à la chaîne signifiante. Et si le fantasme est dans ce cadre-là de l'au-delà du principe de plaisir, c'est donc qu'il porte la marque de ce rapport du sujet à la chaîne signifiante. Le fantasme, d'une manière générale, et tout spécialement, c'est quasi l'objet du chapitre, le fantasme, un enfant est battu, porte la marque du rapport du sujet à la chaîne signifiante. Il dit, au fond, ce fantasme, je vous livre la chose avant de la déployer, il dit ce fantasme, en quelque sorte, qu'un enfant est battu par le signifiant, c'est-à-dire qu'il est fait sujet du fait de l'articulation signifiante, et qu'en conséquence, il est affecté comme désir par la frappe, par l'arrêt introduit justement par le signifiant. Alors, il faut évidemment resituer cela dans le contexte de l'enseignement de Lacan à cette époque-là. Lacan ne dira pas toujours que l'au-delà du principe de plaisir, ça désigne le rapport fondamental du sujet à la chaîne signifiante. Il dira au contraire, 2 ans plus tard, dans le séminaire sur l'éthique, je pense qu'on a commenté ça ici, non ? Il dira 2 ans plus tard dans le séminaire sur l'éthique que l'au-delà du principe de plaisir, au contraire, ce n'est pas le lieu de la chaîne signifiante, mais c'est le lieu de la chose. Terme qu'il reprend au Das Ding de Freud, qui désigne justement la jouissance. C'est-à-dire qui désigne ce trou innommable dans lequel on pourrait tomber au-delà du principe de plaisir, et par rapport auquel le plaisir, ainsi que le principe de plaisir, ainsi que le principe de réalité d'ailleurs, qui s'épaule l'un l'autre, protège. Grâce au principe de plaisir et au principe de la réalité, on reste sur le bord du trou et on ne tombe pas dedans. Si on tombe dedans, on est au-delà du plaisir, dans la jouissance innommable. Ici, l'au-delà du principe du plaisir, ce n'est pas la jouissance. Au contraire, c'est le rapport du sujet à la chaîne signifiante. Le rapport du sujet à la chaîne signifiante qui engendre donc un sujet, c'est la formule même de Lacan, un sujet affecté comme désir. Le terme de désir est une production de la chaîne signifiante et un terme tout à fait essentiel dans cette époque de l'enseignement de Lacan. Le désir, ce n'est pas la jouissance. Le désir, c'est du manque à être, c'est quelque chose de non accompli, qui est du registre de l'être qui manque, tandis que la jouissance, elle, est du registre de l'avoir. Pour jouir, il faut avoir un corps. Ici, on n'a pas affaire au corps affecté de jouissance, mais on a affaire à un sujet affecté comme désir. C'est extrêmement différent. Et affecté comme désir du fait de sa prise dans la chaîne signifiante. Alors, ce qui m'a intéressé, donc ça, disons que c'est... Ce qui m'a intéressé, c'est comment Lacan arrive dans ce chapitre à démontrer, ou quasi démontrer cela. Comment il s'y prend. Alors, je vais tout simplement reprendre le séminaire, paraphraser ce chapitre-là. Pas tout, mais certains passages, comme ça. Vous savez que dans ce chapitre, il y a une petite intro, et puis il y a le paragraphe 1, le paragraphe 2 et le paragraphe 3. Je vais surtout m'attarder à l'intro, paragraphe 1 ou paragraphe 2. Alors, donc, Lacan dit. Dans l'intro, au début du chapitre, il le fait principalement parler du texte de Freud, Un enfant est battu, qui est donc un texte sur le fantasme Un enfant est battu. Alors, la meilleure formule de ce qui se passe dans ce texte pour Freud, je cite Lacan, on peut seulement la donner à partir du registre que j'essaie de développer dans ce séminaire quand je vous montre l'instance essentielle du signifiant dans la formation des symptômes. Ça, c'est ce qu'il dit. Donc, il va montrer ici l'instance essentielle du signifiant dans la formation du fantasme, et plus particulièrement du fantasme « Un enfant est battu ». il a fait, au fond, je suppose qu'on a parlé de ça les fois précédentes, il a fait le même genre d'opération à propos du mode esprit. Il a montré comment, dans le mode esprit, au fond, ce qui l'intéresse et ce qui est intéressant, ce qui compte, c'est la technique signifiante, au détriment, au fond, de la satisfaction emportée par le mode esprit, si ce n'est une satisfaction purement d'ordre symbolique. Dans le mode esprit, vous avez sans doute développé ça précédemment, dans le mode esprit, au fond, s'il y a satisfaction, c'est parce qu'il y a l'autre qui reconnaît ce qui se dit comme un mode esprit. C'est de l'ordre d'une reconnaissance, d'un enterrinement de ce que s'y dit, de ce qui se dit comme mot d'esprit. Ce n'est pas la satisfaction de la langue, c'est la reconnaissance de l'autre, du mot d'esprit. C'est-à-dire que s'il y a une satisfaction dans le mot d'esprit, c'est une satisfaction purement symbolique. Il va quasi arriver au même résultat à propos du fantasme. Alors, donc, il dit quelque chose qui est comme une preuve qu'il apporte au fait de l'instant, de l'essentiel du signifiant dans la formation du fantasme. Et ce qu'il dit est ceci. Il apparaît clairement que chez Freud, la pulsion n'est pas plus nue dans la perversion que dans la névrose. Alors, comment ces termes, pulsion, névrose et perversion, indiquent-ils l'essentiel de la marque signifiante dans la formation du fantasme? Je me suis posé la question. Pourquoi il dit ça là? Alors, évidemment, la pulsion, c'est chez Freud le nom de la satisfaction. C'est comme ça que ça s'appelle la satisfaction. Ça s'appelle pulsion chez Freud. Et donc, quand il dit la pulsion n'est pas plus nue dans la perversion que dans la névrose, ça signifie, c'est comme ça que je le traduis, la satisfaction n'est pas plus nue dans la perversion que dans la névrose. Alors pourquoi? Elle n'est pas plus nue parce que, dit-il, et je pense que Guy va revenir là-dessus, parce que, dit-il, dans la perversion, on a, comme dans la névrose, la même structure de compromis, de dialectique du refoulé, de retour du refoulé. Il y a quelque chose que le sujet ne veut pas reconnaître, qui est méconnu et articulé, refoulé pour des raisons d'articulation. Alors, le mot articulation est le mot... Et un des mots essentiels de cette phrase-là pour comprendre l'essentiel de la marque signifiante. C'est-à-dire que quand on parle de refoulement, on ne peut concevoir ça qu'en tant que lié à une chaîne signifiante articulée. L'articulation est celle de signifiant. Et si, comme il dit, le sujet, s'il y a une levée du refoulement, s'il y avait une levée du refoulement, et que le sujet attrape un signifiant, puisque ce signifiant est articulé à d'autres signifiants, les autres signifiants font aussi toute la chaîne, fait retour du refoulé. Donc, dans la perversion, comme dans la névrose, on a refoulement de signifiants articulés entre eux, et il y a plus particulièrement, c'est ce qu'il dit, élision de termes oedipiens. Et la pulsion, la satisfaction, donc, si elle apparaît, elle n'apparaît que partiellement, elle apparaît dans un élément signifiant. Ça n'a rien à voir avec le corps, au fond, avec la satisfaction dans le corps. Ça apparaît dans un élément signifiant. Et alors il réfère, vous l'avez lu, à l'élément instrumental non seulement dans les perversions, mais dans les fantasmes pervers. Pourquoi dit-on qu'un fantasme est pervers? D'abord, question au fond, Si on dit que c'est pervers, c'est parce que ça ne sert pas directement à la relation génitale. Tout ce qui ne sert pas à la relation génitale est pervers. Donc, même dans un fantasme. Donc, où est-ce que je suis là ? Donc, il réfère donc, pour dire l'élément signifiant sous lequel revient la satisfaction, il réfère à un élément instrumental qui est la chaussure ou le fouet. Et il dit de ces éléments instrumentaux, la constance d'un élément, d'un tel élément, comme le fouet par exemple, dans les transformations que peut connaître la perversion ou le fantasme pervers, oblige d'admettre un élément signifiant au-delà de l'économie biologique de l'instinct. Oblige à reconnaître un élément signifiant, quelque chose donc de l'ordre du langage, au-delà de l'économie biologique de l'instinct. Au fond, il parle là de la satisfaction qui n'aurait rien à voir avec le langage. Alors, il étudie ces transformations du fantasme pervers, donc, à partir du texte de Freud, On bat un enfant. Alors, il rappelle, je ne vais pas vous résumer ce texte, je paraphrase le texte de Lacan. Il rappelle que On bat un enfant est un fantasme isolé par Freud chez un certain nombre de malades, 8 je pense, dont 6 filles. Et que, voilà ce qu'il dit Lacan, d'entrée de jeu. Il dit que Freud se demande ce que signifie ce fantasme, ce que signifie ce fantasme, dans laquelle sans doute est pris une part importante des satisfactions du sujet, mais il dit, Lacan dit que Freud se demande ce que ça signifie, c'est-à-dire ce que ça veut dire. Il est donc question de savoir ce que ça signifie et pas ce que ça jouit, même si des satisfactions sont prises là-dedans. Alors il note, là on est là dans le point 1 du texte du chapitre, il note différents éléments généraux qui mettent l'accent justement sur cette donne signifiante du fantasme, un enfant est battu. Il dit, ce n'est pas n'importe quel fantasme sadique ou pervers. C'est pas une petite satisfaction, moi j'entends ça comme ça, c'est pas une petite satisfaction sadique ou perverse. C'est au contraire un fantasme avoué de manière réticente avec culpabilité. C'est-à-dire que c'est marqué, c'est comme ça que je le comprends, c'est marqué par le refoulement et donc par l'articulation signifiante refoulée. Il ajoute, dans la formule finale du fantasme, un enfant est battu ou on bat un enfant, le sujet n'est pas celui qui bat, ni qui est battu, finalement. Il est le spectateur. Là encore, dans la formule finale, si c'est comme ça, c'est parce qu'il y a l'instance du refoulement. Par ailleurs, le personnage qui bat est dans la lignée de ceux qui ont l'autorité. Ce n'est pas le père, mais c'est un équivalent. Ça réfère bien sûr au chapitre précédent sur l'Œdipe, mais le mot important à retenir ici, c'est que c'est un équivalent du père. Le mot équivalent indique qu'il y a substitution entre différents termes. Et il n'y a que des signifiants qui se substituent les uns aux autres. Les objets ne peuvent pas se substituer les uns aux autres. Les objets, le réel ne peut pas les objets dans le réel, dans la réalité, ne peuvent pas se substituer les uns aux autres. On peut les substituer dès lors qu'on les met, qu'on les range dans une catégorie signifiante. Bon, alors, donc, celui qui bat est un équivalent du Père. Il est dans la lignée de ceux qui ont l'autorité, donc ce n'est pas le Père réel. C'est un signifiant, c'est le Père symbolique. C'est dans la catégorie du nom du Père. Pas du Père réel. Alors, il souligne encore comme élément général qui indique cette donne signifiante, donc. Il dit que ce qui est intéressant, c'est la façon dont Freud procède pour aborder le problème. Freud constate des constantes. D'une part, et par ailleurs, ce qui lui paraît important, ce sont les avatars, l'histoire, les transformations de ce fantasme. Quelque chose change, d'une part, et quelque chose reste constant, d'autre part. C'est-à-dire qu'on peut suivre à la trace le signifiant dans la constante et ses équivalences substitutives. Alors, quelles sont ces transformations chez Freud ? Donc, Lacan reprend ici dans le chapitre ce qui se passe chez les filles. Il y a donc trois états du fantasme. L'état final, c'est on bat un enfant. Un enfant est battu. Et dans l'analyse, on peut se souvenir du premier état de ce fantasme. Le deuxième état, lui, on ne s'en souviendra pas, il reste irrémédiablement refoulé. Le sujet va juste le reconstruire dans l'analyse. Alors, premier état du fantasme, dont on peut se ressouvenir dans l'analyse, le père bat un enfant qui est un petit frère, une petite sœur, un petit cousin, un puidé, donc, un rival. Alors, ce temps-là, Lacan dit que c'est un temps d'avant l'Œdipe. Il va mettre en relation les trois temps du fantasme avec l'avant, le pendant et l'après-Œdipe. Enfin, avec les trois temps de l'Œdipe. Alors, donc dans le premier état du fantasme, mon père bat un enfant qui est mon puiné, c'est le père qui bat. C'est le père qui bat, même si c'est un temps d'avant l'Œdipe. Alors, de nouveau, Lacan se pose la question, quelle est la signification de ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On ne peut pas dire, dit-il, que c'est sexuel ou sadique. Parce que de toute façon, c'est fait de la même matière, le sexuel et le sadique. Quelle est donc la signification de ce fantasme ? Le sens, dit-il, de ce fantasme, c'est que le père refuse, dénie son amour à l'enfant battu. Mon père ne l'aime pas, lui. Et c'est ça qui me fait plaisir, qu'il ne l'aime pas, lui. Alors, quel est ce plaisir ? Le plaisir de celui qui regarde la scène où mon père bat mon puiné. Quel est son plaisir ? Lacan fait un commentaire supplémentaire que je vais vous dire avant de venir à quel est ce plaisir. Il dit que si le plaisir est, pour celui qui regarde, que mon père ne l'aime pas, c'est que le sujet qui lui est battu n'est pas établi dans la relation purement symbolique. Alors, donc, le sujet battu n'est pas établi dans la relation symbolique. Celui qui regarde éprouve une satisfaction, et cette satisfaction est une satisfaction de l'ordre de l'imaginaire. Bon, je vais essayer de vous déployer ça. Il faut revenir pour ça au schéma L. Bon, c'est... Bon, alors... Donc, on a une relation ici, enfin, on a trois termes en présence. Il y a celui qui est battu et le père, deuxième terme, et le troisième terme, l'enfant qui regarde mon poignet qui est battu. Alors, le poignet qui est battu et l'enfant qui regarde se situent sur l'axe que Lacan appelle imaginaire, sur l'axe A' qui est repris dans le graphe sous les espèces de M, petit point I de A. Alors, qu'est-ce qui se peut. Pour Lacan, la satisfaction qui a lieu chez celui qui regarde là est une satisfaction imaginaire. Alors, c'est pas. Ouais, comment je m'explique ? C'est une satisfaction imaginaire qui se déroule donc sur l'axe A'. Alors, qu'est-ce qui se passe sur cet axe avec la satisfaction ? Là, dans le rapport donc à mon image dans le miroir ou dans le rapport à mon rival. Sur cet axe-là, la satisfaction circule en vase clos. Elle est soit le fait de l'un, je me parme de satisfaction devant ma belle image dans le miroir, ou elle est soit le fait de mon rival, je pâlis de jalousie lorsque l'autre prend le sein à ma place. C'est-à-dire que la jouissance est celle du moi ou celle du rival qui me vole ma jouissance à moi. La jouissance circule en vase clos entre l'un et l'autre. Et Lacan, quand il commente tout ça, dit que c'est une impasse, que c'est une impasse, que ça continuera comme ça et qu'il faut attendre que ça passe pour s'intéresser vraiment à ce qui est intéressant et qui est la relation du sujet avec le grand autre, qui lui, le sujet, là, grâce à sa relation au grand autre, qui va reconnaître son désir, va trouver sa place symbolique. Ce n'est plus la place de celui qui est favorisé ou qui est lésé, mais c'est sa place dans le symbolique. Eh bien, la satisfaction, je veux dire ça comme ça, que le sujet, dans le fantasme qui voit son frère battu par le père, cette satisfaction est imaginaire en ce sens qu'il considère que l'autre n'est pas aimé par son père. D'accord. Évidemment, c'est une question d'amour. C'est même pas une question d'obtenir le sein, c'est une question d'amour. Et l'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas. C'est purement symbolique. Mais en même temps, c'est vécu sur l'axe imaginaire de l'autre. Qui prend ou que moi je prends à l'autre, en fait. Donc on a là une satisfaction sur l'axe imaginaire qui concerne l'amour, qui est ce qui ne se donne, qui donne ce, qui est donné ce qu'on n'a pas, qui lui est de l'ordre symbolique. Alors je dois dire qu'en préparant ce truc, je me suis dit, au fond, je vais vous raconter ça maintenant, je me suis dit. Bon, je vous dirai peut-être ça plus tard. Enfin, bon. J'ai pensé à qu'est-ce que c'est que d'être battu et à ce que ce serait une satisfaction qui tiendrait au corps et pas au fait que c'est moi qui ai la jouissance et pas l'autre. Où l'amour n'est pas l'autre. Et j'ai observé des enfants ce week-end, mes petits-enfants, et je les ai vus, un tout petit, se battre avec sa grande sœur. Bon, se battre, pas méchamment, c'était un jeu de touche-touche, en fait. On se roule l'un sur l'autre. Et alors, j'ai pensé à une chanson qui est un jeu, je ne sais pas si ça chante encore aujourd'hui, mais en tout cas, quand moi j'étais à l'école, il y avait ce jeu-là. C'est à partir d'une chanson, on se met en rond, une chanson qui s'intitule Le fermier dans son pré, Est-ce que vous connaissez ça? Alors, donc le fermier dans son pré, il est au milieu du cercle. Il prend sa femme, qui vient au milieu du cercle. La femme prend son enfant, l'enfant prend sa nourrice, la nourrice prend le chat prend la souris prend le fromage, et le fromage est battu. Alors, le moment jouissif du truc, il faut bien le... sauf si on a affaire à des petits méchants pervers qui vous enfoncent quelque chose dans le dos, mais le moment jouissif dans le truc, je me souviens dans la cour de récréation, c'est quand on était le fromage battu et qu'on se faisait battre, c'est-à-dire qu'on se faisait toucher en fait. Donc ça, c'est pas du tout l'autre qui me dérobe ma jouissance ou que me dérobe l'amour, c'est vraiment quelque chose d'éprouvé dans le corps et qu'on voit chez les tout petits en fait, hein. Qu'on voit déjà chez les tout petits. Donc, il n'est pas question ici de la jouissance en tant qu'elle revient dans le corps, mais pour ce premier temps du fantasme, d'une satisfaction, disons, imaginaire. Deuxième temps du fantasme, là, c'est un temps donc, qui est reconstruit, dont on ne se souvient pas, pure construction, déduction du travail analytique. Le deuxième temps, lui, est lié à l'Oedipe comme tel, c'est « je suis battu par mon père ». Lacan dit qu'il a le sens d'une relation privilégiée de la petite fille à son père, c'est elle qui est battue. Il y a retour du désir oedipien pour la petite fille, être l'objet, pas de la jouissance, c'est pas ce qu'il dit, être l'objet du désir du père. Mais comme c'est coupable... C'est d'ailleurs refoulé, on ne s'en souvient pas. Comme c'est coupable d'être l'objet du désir du père ou d'être aimé par le père, eh bien, ça nécessite cette transformation. Je suis battue par le père. Refoulement, donc, et transformation en culpabilité. Là, dit Lacan, c'est une relation franchement libidinale, mais refoulée. Libidinal, c'est au sens d'être l'objet du désir. C'est pas au sens de la jouissance qui revient dans le corps. Hein. Alors, après, troisième temps du fantasme, un enfant est battu. Temps qui vient donc après la sortie de l'Oedipe. Là, il ne reste du fantasme qu'un schéma général. Il y a une double transformation. D'une part, les enfants sont démultipliés sous forme d'une série neutre. On bat un enfant ou un enfant est battu. Et la figure du père est renvoyée à la forme générale d'un personnage en posture de battre. Quelque chose s'est maintenu constant. Il y a une image privilégiée qui fait le support sur lequel il pourra éprouver des satisfactions génitales. Donc c'est une image privilégiée qui fait le support de ce qui sera, de ce que sera des satisfactions génitales. Alors, ça c'est pour le point 1 du chapitre en question. Le point 2, Lacan fait un autre tour. Le même tour, enfin, tourne autour. Donc, il reprend le premier temps du fantasme. Donc, on a là trois termes. L'enfant qui est battu, celui qui regarde et le père. Dans le temps de l'Oedipe, dit-il, dans le premier temps de l'Oedipe, on a aussi trois termes. Là, c'est l'enfant, la mère et tout au départ le sein que la mère donne ou ne donne pas. C'est-à-dire, dit Lacan, avec le sein que la mère donne ou ne donne pas, c'est-à-dire qu'il y a des satisfactions immédiates qu'elle peut apporter à l'enfant, le sein. Mais, la phrase est forte, hein, mais s'il n'y avait que cela, il n'y aurait aucune espèce de dialectique, aucune ouverture dans l'édifice. Et donc, ajoute-t-il, le rapport à la mère, dans le premier temps de l'Oedipe, donc, le rapport à la mère n'est pas simplement fait de satisfaction et de frustration, il est fait de la découverte de ce qu'elle veut, de ce qui est l'objet de son désir. À l'objet saint se substitue alors le phallus, la question de ce qu'elle désire, de ce qu'elle veut. C'est pas la question de son dont elle veut jouir, c'est la question de l'objet de son désir et de ce que ça veut dire, de la signification que ça a. Et là, à nouveau, on n'est pas pris dans le registre de la satisfaction, mais dans celui de la signification. La première dialectique de la symbolisation du rapport de l'enfant à la mère est essentiellement faite pour ce qui est signifiable, ce qui est ressorti donc à la signification produite par l'articulation signifiante. Et c'est ça qui nous intéresse, dit-il. Il ajoute, phrase importante, le signifiant phallus, c'est le signifiant de la signification. Alors, comment j'ai saisi ça? Bon, le phallus, c'est un signifiant. Ça se met déjà en place dans le séminaire précédent. C'est un signifiant, le phallus, parce que, on peut le dire comme ça, parce que c'est ce qui manque à la mère. Dans le réel, il n'y a rien qui manque. Si on dit que quelque chose manque, il faut du symbolique pour dire ça. Il faut dire que quelque chose manque à sa place. Et dans le réel, tout est là en tas, il n'y a pas de place. Il y a de la place seulement du rangement dès lors qu'on introduit les catégories signifiantes. Donc le phallus, il manque à sa place, comme le livre de Lacan, par exemple, pourrait manquer à sa place dans la bibliothèque sous la lettre L. Donc le phallus qui dit ce qui manque à sa place, et il n'y a que le signifiant qui peut faire ça, le phallus est insignifiant. Le phallus, c'est aussi signification. C'est d'ailleurs la signification produite par la métaphore paternelle. Le père qui vient se substituer à la mère produit la signification phallique, c'est-à-dire qu'il produit deux choses, je dirais ça comme ça. Il produit le fait que il donne le nom, disons, de ce qui manque à la mère, le phallus, et en même temps il dit le nom du désir de la mère, le phallus, c'est ça qu'elle désire, le phallus, et en même temps, il dit à l'enfant, tu manques à être ce phallus. Alors, mais je pense qu'il y a, donc le phallus signifiant, c'est le signifiant de la signification, dit Lacan, mais je pense qu'il y a encore quelque chose d'autre à dire. C'est pas seulement que le phallus est signifiant tantôt, et signification à un autre moment. C'est que je dirais ça comme ça. C'est que le phallus signifiant est le paradigme même de ce qu'est un signifiant qui engendre la signification. Le signifiant, l'articulation signifiante, c'est fait pour produire une signification. Dans le langage, quand on articule un signifiant à un autre, il se produit comme résultat une signification. Et le signifiant phallus est en quelque sorte le paradigme même de la signification sous les espèces de le signifiant même, au fond, la signification qui est produite introduit quelque chose du langage à la place de ce qui est dans le réel. il introduit de la signification, en l'occurrence du manque à être. Et le signifiant phallus est le paradigme même de l'opération signifiante qui introduit de la signification. C'est comme ça que je comprends. Est-ce que vous suivez ? Il faut deux signifiants pour produire une signification. Et le phallus est l'exemple même de la signification, du statut même de la signification qui vient comme ce qui sera toujours, ce qu'on essaie d'attraper et qui sera toujours, et qui est de l'ordre du langage, de la production langagière, et qui n'est pas du réel, qui n'est plus du réel. Le réel, il est là, on ne le rate pas, on se cogne dessus. Non seulement ça engendre, c'est le paradigme même de l'engendrement de la signification, mais c'est le paradigme même aussi parce que, au fond, comment vais-je dire ça, que le faut que je vous dise un autre truc. C'est que Lacan définit au fond l'article. Donc, un signifiant s'articule à un second signifiant et ça produit, quand il s'articule de manière métonymique, ça produit ce que Lacan appelle le désir. Le désir, c'est ce qui court sous la chaîne signifiante et qui n'arrive jamais à se dire. C'est une sorte de manque qui court sous la chaîne signifiante et qui est introduit par le signifiant lui-même. Donc le désir est un terme absolument fondamental dans cette opération-là. Et c'est aussi pour ça que le signifiant phallus, c'est le signifiant de la signification. Bon. Alors, je ne sais plus où je suis. Donc. Alors, Lacan revient donc à ce premier temps du fantasme, le rapport au petit frère, au rival, qui est donc un rapport imaginaire. Alors, à ce pur niveau imaginaire, dit-il, l'enfant qui est battu, le petit frère qui est battu, est aboli sur le plan symbolique. Il est un rien du tout. À quoi on refuse toute considération en tant que sujet. Donc le petit frère est un rien du tout, et ce rien du tout, dans la relation ici imaginaire, on s'identifie à lui. Le sujet qui regarde s'identifie à celui qui est rien du tout. C'est une impasse. Pour sortir de cette situation en impasse, il faut une solution. Et la solution se trouve, c'est Lacan qui dit ça, et la solution se trouve au niveau du fantasme. Le fantasme dit masochiste, de fustigation, un enfant abattu, constitue, dit-il, à ce niveau une solution réussie au problème de la relation imaginaire, de rivalité. Alors, la façon dont il justifie ça est courte. Enfin, c'est dit très rapidement, voilà ce qu'il dit. La relation rivale, quand elle sort de l'impasse, ne prend sa valeur décisive que pour autant qu'elle s'inscrit dans un développement de symbolisation. Il s'agit, dit-il, d'un acte symbolique. Pourquoi symbolique ? Parce que le fouet ou la baguette porte en soi le caractère de quelque chose qui, sur le plan symbolique, s'exprime comme une ré. Le signifiant barre, ré. Et le fouet comme le signifiant barre et ré. Au fond, le fantasme d'un enfant abattu, c'est en quelque sorte une métaphore de l'opération signifiante. Le fouet venant comme le signifiant rayer, faire manquer à être, au fond. celui sous le joug duquel il tombe. Et Lacan explique bien que ça n'a rien ça à voir avec ce qui se passe réellement. Quand un enfant vraiment est battu, là, on éprouve plutôt une aversion. Il ne s'agit pas, non, ce fantasme d'atteinte à l'intégrité réelle et physique du sujet, c'est son caractère, symbolique comme tel, qui est érotisé. C'est-à-dire que c'est une satisfaction symbolique. À me faire rayer, au fond, je trouve ma place symbolique dans la relation aux autres. Ça satisfait un désir de reconnaissance. Troisième temps du fantasme. Là, donc, le fantasme est généralisé. On bat un enfant. Alors, il y a ce commentaire extraordinaire de Lacan. Je trouve, on est tous sous la vérule. Je vais voir au dictionnaire. Ça veut dire qu'on est tous sous l'autorité. Entrer dans le monde du désir, dit-il, c'est subir la loi de la Schlag. La Schlag, c'est une punition militaire à coups de baguette. Donc, le troisième temps manifeste, dit, énonce au fond, de manière, je dirais, métaphorique, un rapport essentiel du sujet au signifiant. C'est sous la verrue du signifiant qu'on se trouve. Et la satisfaction du en jeu est donc celle de la place obtenue dans le symbolique. C'est une satisfaction toute symbolique et je vais m'arrêter là.
Merci beaucoup. Nous allons passer donc à la deuxième partie de l'exposé. Guy Poblom, que je vous présente, est psychanalyste à Tournai. Il est enseignant au Collège clinique de Lille et il est également directeur thérapeutique au Courtil à Tournai. Je lui donne la parole.
Bien. Pour commencer, je vais planter le décor. Je dois dire que j'étais un peu surpris quand je me suis mis à lire ce chapitre 14 du séminaire sur les formations de l'inconscient. Surpris parce qu'il entame une nouvelle partie du séminaire, la troisième partie du séminaire, ce qui implique une coupure entre la séance que Monique vient de présenter et celle-ci. Bien sûr, il y a une continuité, un lien, car Lacan est au travail des mêmes questions. Mais enfin, il y a une volonté de Jacques Alain Miller, car c'est lui qui a introduit ses scansions dans le séminaire de Lacan, pendant qu'il l'établissait, donc une volonté d'indiquer que là, on passe à autre chose. Cette troisième partie s'intitule « La signifiance du phallus ». Retenons cela. J'ai été surpris aussi parce qu'il ne s'agit pas du tout d'une séance conceptuelle. Tout au contraire, Lacan met en série trois illustrations, je dirais cliniques, de ce qu'il est en train d'élaborer. D'abord, un article de Joanne Rivière, intitulé « La féminité comme mascarade ». Ensuite, un très beau passage sur Gide, à partir du livre de Jean Delay sur la jeunesse de Gide. Et enfin, une présentation et un commentaire d'une pièce de Jean Genet intitulée « Le balcon ». Alors, bon, je vous livre un peu mes états d'âme. Ici, après avoir lu cette séance, Gide, peut-être que ça peut expliquer le choix de cette séance, parce que toutes les séances du séminaire, il y en a tellement qu'elles sont... Vous avez dû faire des choix, vous avez choisi des séances... Donc peut-être que ça peut expliquer donc, le choix de cette séance, mais enfin, nous avons parmi nous quand même un spécialiste de Gide, qui a d'ailleurs écrit un très beau livre à ce sujet. je me suis dit que je n'allais pas me lancer sur ce terrain-là pour ne faire au mieux que répéter des choses si bien dites et écrites. Le cas de Joan Rivière a déjà été maintes fois commenté, je crois, enfin, il y a la pièce de Jean Genet, Le Balcon, qui fait un effet bizarre parce qu'on ne sait pas très bien où Lacan veut en venir avec cette pièce. Je dirais si on lit que ce chapitre-là. Mais bon, j'en avais déjà entendu parler l'année dernière au Collège Clinique de Lille, où Jean-Philippe Parchelignac on avait repris le commentaire et ça m'avait amusé. Et donc j'ai décidé de faire de cette pièce mon objet pour ce soir. Il est impossible, je crois, de lire cette séance 14, donc des formations de l'inconscient, sans la mettre au moins en perspective avec ce qui la précède dans le séminaire, ni sans tenter de saisir ce qui fait le mouvement de ce séminaire 5. Sans doute, on a déjà dû vous en parler plusieurs fois. Enfin, je pense que c'est important de taper sur le clou. Ce qui prépare notamment cette séance 14, c'est la 12. Celle donc qui précède celle que Monique vient de présenter et qui s'intitule « De l'image au signifiant dans le plaisir et la réalité ». Lacan le dit lui-même, c'est une séance, donc la séance 12, un peu abstraite, donc c'est le contraire de celle que je dois commenter. Et c'est peut-être pour cela que dans les séances suivantes, il amène plutôt de la clinique, le fantasme à l'enfant abattu, mais aussi donc les trois illustrations qui sont dans le chapitre 14. Donc je mets toujours en perspective, la séance 12 suit directement sa présentation des trois temps de l'Œdipe, dont on vous a parlé la dernière fois, et dans laquelle cette séance 12, il s'avance à articuler les concepts à partir justement de ce nouvel Œdipe. Donc, je vais mettre Le Balcon de Jean Genet en perspective avec cette séance 12. Ce qui fait le mouvement du séminaire, les formations de l'inconscient, c'est Jacques-Alain Miller qui l'extrait pour nous. D'une part, par les scansions qu'il introduit dans le texte du séminaire, en nommant les chapitres, enfin en faisant des coupures, des scansions. Donc, il y a deux scansions, donc ici données par les titres des chapitres, de l'image au signifiant, donc de l'imaginaire au symbolique. C'est un premier mouvement, c'est un mouvement, ça. C'est le mouvement même, je dirais, du séminaire. Donc ça, c'est le titre de la leçon 12, dont Jacques-Alain Miller dit qu'il aurait pu être le sous-titre de l'ensemble du séminaire sur les formations de l'inconscient. Et ce mouvement est également donné par le titre de la troisième partie qu'on entame, la signifiance du phallus. Donc on voit que ce mouvement qui est extrait par Jacques-Alain Miller, c'est le phallus de l'imaginaire au symbolique, et c'est donc le mouvement de l'imaginaire au symbolique. Donc c'est la première façon dont il extrait ce mouvement du séminaire, c'est en donnant les titres aux séances de ce séminaire. Il extrait également ce mouvement dans un petit séminaire qu'il a tenu à Barcelone en 98, donc Anne Cosin vient l'a évoqué tout à l'heure. Donc, séminaire que Jacques-Alain Miller a tenu à Barcelone à l'occasion de la sortie du séminaire 5 et qui a été repris donc, dans cet opuscule publié dans la collection Ruissement sous le titre « Du nouveau », introduction au séminaire 5 de Lacan. C'est très précieux pour aider à lire Lacan. On vous a sans doute déjà parlé de ce, on en a parlé tout à l'heure. Je dirais que grâce à ça, grâce aux coupures, aux titres que Miller donne au chapitre du séminaire et à son commentaire ici repris dans cet opuscule, le mouvement des élaborations de Lacan devient limpide. C'est celui qui va de l'imaginaire au symbolique. C'est celui qui fait rentrer les éléments qui jusque-là étaient dans le registre imaginaire dans le symbolique. C'est la toute-puissance du symbolique. C'est le tout symbolique. le désir, qui avant était lié à l'imaginaire, lié à la captation imaginaire. Pensons à toutes les références éthologiques de Lacan, dans lesquelles l'image du partenaire est essentielle dans ce qui provoque le désir et le cycle de la reproduction. Ce désir est maintenant devenu une métonymie, Monique l'indiquait tout à l'heure, de la chaîne signifiante. Pour garder la référence éthologique, le désir devient le furet qui court dans la chaîne, sous la chaîne signifiante, même plus précisément, qui est bien présent sans qu'on puisse l'attraper entre les lignes. Le moi lui-même, qui jusque-là était exclusivement lié au stade du miroir, à l'image du corps, va trouver ses coordonnées symboliques. En fait, c'est ça le point central. C'est que pour devenir quelqu'un, pour que le sujet puisse accéder à la conquête progressive de soi-même, comme le reprend Jacques Anna Miller, et pour qu'un élément puisse entrer dans l'économie subjective, il doit être symbolisé, signifiantisé. Il faut que les identifications passent de l'imaginaire au symbolique. Avant, il y avait le schéma L. Vous le connaissez, et Monique l'a tracé au tableau. Je vais simplement ajouter quelques éléments sur ce dessin que tu as fait. Donc là, on a l'axe imaginaire. Et là, on a, alors peut-être je vous permets de le mettre en pointillé, l'axe symbolique. Donc l'axe imaginaire avec donc le moi. Ici donc l'autre ou l'image du corps. Et ici, donc, c'est l'axe de l'inconscient qui reçoit sa détermination du grand autre, donc symbolique. C'est l'axe symbolique. Et dans cette configuration, ce qui est présenté, c'est la séparation radicale de l'imaginaire et du symbolique. C'est ce qu'indique en fait le fait qu'il y a des pointillés, c'est-à-dire que l'axe imaginaire fait barrage au symbolique. Fait barrage au symbolique, symbolique qui détermine l'inconscient, d'où le sujet reçoit donc sa détermination symbolique. Ça c'est avant, c'est dans les premiers séminaires de Lacan. Le sujet déterminé par le symbolique, et le moi, déterminé par l'imaginaire, par l'image du corps, sont opposés. L'un est symbolique, l'autre est imaginaire. D'un côté, les serviettes symboliques, de l'autre, les torchons imaginaires, dit Jacques Anna Miller. Eh bien, dans le séminaire 5, Lacan ne va plus seulement opposer symbolique imaginaire, il va les articuler, on retrouve le terme que Monique avait relevé. C'est pas la même chose, opposer et articuler. Et c'est cette articulation qui va permettre qu'un mouvement soit rendu possible de l'un à l'autre. Lacan, dans ce séminaire 5, commence à construire son schéma R. C'est une transformation du schéma L qui prendra tout son empan dans la question préliminaire à tout traitement possible de la psychose qu'il vient d'écrire. Donc là, les leçons, c'est au mois de mars. Et il a écrit la question préliminaire en décembre et janvier de la même année. Alors, de quoi part-il ? Il part de la relation mère-enfant, dont il indique d'emblée, je reprends, bon, on se recoupe un peu dans nos exposés, dont il indique d'emblée qu'elle ne peut pas se suffire à elle-même. Qu'elle est immédiatement prise dans une dialectique complexe. D'un côté, l'enfant a affaire à une mère déjà symbolisée par son absence et sa présence. Elle n'est pas toute présence. Elle est marquée par des allers-retours, par un battement qui est le principe même du symbolique. Et Freud a très joliment repéré comment l'enfant subjectivait cette présence du symbolique dans son monde par le jeu du Forda. Ce battement maternel met l'enfant en présence du fait que la mère désire ailleurs. En fait, je me suis dit que désirer ailleurs, c'était un pléonasme. Car ce battement met l'enfant en présence du fait que la mère désire tout simplement. Et c'est toujours ailleurs, parce que si l'enfant et la mère se suffisaient dans une espèce de cercle fermé, comme dit Lacan, il n'y aurait pas d'ailleurs, il n'y aurait pas de désir. Alors, je vais un peu essayer de construire, enfin, avec vous, ce schéma R. Et donc là, donc, dans ce premier temps, on trouve... Donc, l'enfant et la mère est d'emblée quelque chose qui est de l'ordre donc du battement maternel qui présentifie le désir de la mère. Et on peut déjà noter ici, puisque c'est indiqué, que ce désir de la mère est articulé au symbolique, par son battement, par les allées et venues. Donc ici, on peut être le S du symbolique. Donc on a déjà en quelque sorte un triangle qui se constitue, qui est le triangle du symbolique. Et puis, dit Lacan, l'enfant s'intéresse aussi à d'autres choses, il n'y a pas que sa mère dans le monde. Notamment à ce quelque chose qui est une perception, qui a un pouvoir de captation sur le sujet, qui est à la fois réalité et virtualité, qui est une image virtuelle et qui s'appelle l'image du corps. Je cite Lacan à la page 225. Cette image virtuelle joue un rôle décisif dans une certaine cristallisation du sujet que j'appelle son Urbild. Alors, Bild, c'est l'image. Et le préfixe Ur, en allemand, indique le côté premier, le côté primordial de ça à quoi il se rapporte. Ça donne le mot prototype. C'est le modèle de base du moi qui inclut aussi la dimension d'idéal. C'est ce que Lacan appelle aussi le moi idéal. Et il ajoute, je le mets en parallèle avec le rapport qui se produit entre l'enfant et la mère. Donc il continue à construire son schéma R. Et donc il le complète en mettant en parallèle à la relation de l'enfant à la mère. Donc ici. Bon, je suis pas très doué en dessin, mais on va y arriver. L'image du corps, ici le moi. Donc là où il situe l'Urbild. Cette image joue son rôle dans le rapport au désir de la mère. Donc voilà, ça commence à s'articuler. Donc c'est-à-dire que ce qui est de l'ordre du désir de la mère, qui est du côté symbolique, eh bien l'image du corps va venir répondre à la question du désir de la mère. Voilà. L'enfant tente de se situer à l'égard de ce désir de la mère, et utilise l'image pour tenter d'illusionner ce désir, de le leurrer. « comme si l'image du corps pouvait venir répondre à la question du désir de la mère. Donc c'est un élément imaginaire qui vient répondre à une question symbolique. C'est une articulation de l'imaginaire et du symbolique. L'enfant fait appel à l'imaginaire pour répondre au désir de l'autre, de la mère, ce que l'autre désire serait cette image idéale. Il m'est revenu en travaillant que ces deux éléments, le désir de la mère représenté par le battement symbolique et le rapport au miroir, sont déjà en fait présents et noués chez Freud dans son texte Au-delà du principe de plaisir. C'est dans ce texte qu'il déploie la question du forda chez l'enfant, hein, dont je vous disais tout à l'heure que c'est sa façon de subjectiver le désir de l'autre, le désir de la mère, de symboliser. Mais cette articulation entre l'imaginaire et le symbolique est déjà présente chez Freud dans une note. Une note du chapitre 2, chapitre où il déploie justement le forda. Je cite Freud. « L'enfant avait trouvé, pendant sa longue solitude, un moyen de se faire disparaître lui-même. Il avait découvert son image dans un miroir qui n'atteignait pas tout à fait le sol et s'était ensuite accroupi de sorte que son image dans le miroir était partie. » Bon, on voit que déjà, même chez Freud, il y a quelque chose de l'imaginaire, non pas ce qui seulement s'oppose, mais qui s'articule. On a vraiment là l'articulation non plus seulement l'opposition entre imaginaire et symbolique. Cette activité de l'enfant qui leurre le désir de l'autre quand même. Donc c'est pas que ça répond au désir de l'autre, ça le leurre. Parce qu'en proposant cette image idéalisée comme ce qui viendrait combler le désir de la mère, ce n'est déjà plus lui en chair et en os. C'est ça aussi la fonction du leurre. Comme le dit Lacan, c'est toute la valeur de l'activité jubilatoire de l'enfant devant son miroir. Il répond au désir de la mère et en le leurrant et en même temps il sauve sa peau. On comprend sa satisfaction. Et Lacan ajoute que s'il n'y a pas cette dialectique complexe entre l'enfant et sa mère, s'il reste enfermé dans un cercle fermé, c'est quand même la psychose. Donc, d'une certaine manière, on pourrait dire que Lacan situe la psychose, disons là. Si ceci reste un cercle fermé et qu'il n'y a pas la question du désir de la mère qui se pose et pas l'appel à l'image leurrant dans le miroir qui vient tenter d'y répondre chez l'enfant. Ce qui a été repris là en articulant l'imaginaire et le symbolique, c'est le premier temps de l'Œdipe. C'est le temps, comme on vous l'a certainement présenté, pendant lequel ce qui polarise cette image du corps dans le rapport au désir de la mère, c'est le phallus. Je dirais ici imaginaire, objet du désir de la mère auquel l'enfant va s'identifier. Alors, on complète le schéma. Ce qui polarise l'image du corps, c'est le phallus. Et donc on peut continuer à compléter, c'est que si ici on a le triangle du symbolique, ici se constitue le triangle de l'imaginaire. Ce phallus est un objet ou insignifiant, enfin justement très singulier. Car il rentre en somme dans les trois catégories, réel, symbolique et imaginaire. Ici, c'est le phallus, donc ce dont il s'agit, c'est le phallus imaginaire. En tant qu'image, l'enfant s'appuie sur son image du corps pour s'identifier à l'objet qui manque à la mère. L'image du corps est phallicisée. Évidemment, il devra s'extraire de cette relation leurrante pour pouvoir passer d'être le phallus à la question de l'avoir, et pour ne pas rester enfermé dans cette relation à trois mères enfants phallus. Donc de rester enfermé dans le triangle imaginaire. C'est là dit Lacan, qu'intervient le père dans le second temps de l'Œdipe. C'est le père de l'interdit. Il dit non à l'enfant, il dit non à la mère, et celle-ci relaie la parole du père. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais disons que c'est l'Œdipe classique, celui de l'interdit. Vous le connaissez. Ce qui est important, c'est de noter. Et c'est en phase avec le mouvement du séminaire, qui va de l'imaginaire au symbolique, que cet interdit est une parole, et qu'elle est médiée par la parole de la mère, que donc ça se passe dans le champ du symbolique. Le père, c'est moins le père de la réalité que le père symbolique, que ce que Lacan appelait le nom du père, signifiant au principe de tous les signifiants, relayé par le discours de la mère. Lacan le dit précisément dans la question préliminaire, à la page 557, au moment où il introduit la forclusion. Je le cite, « Essayons de concevoir une circonstance où, à l'appel du nom du Père, répondent. » C'est ici le passage important pour nous aujourd'hui. « Non pas l'absence du Père réel. » Moi, je comprends le Père de la réalité. Car cette absence, dit-il, est plus que compatible avec la présence du signifiant. Donc le nom du père, ce n'est pas le père de la réalité, c'est un signifiant. L'interdit du père est donc tout à fait d'ordre symbolique. C'est la loi de la Schlag. Et du coup, le phallus prend un autre statut également. Car si l'interdit porte sur cet objet imaginaire, ça le fait passer du même coup au symbolique. Lacan le dit à la page 227 du séminaire, le père intervient pour interdire, du coup il fait passer au rang proprement symbolique, je le cite, hein, l'objet du désir de la mère. Le phallus passe au symbolique. Celui-ci n'est plus seulement un objet imaginaire, il est en plus détruit, interdit. L'interdiction négative le phallus et le fait passer au statut de symbole. Le mouvement de symbolisation du séminaire de Lacan continue. Donc on peut, en continuant de construire le schéma R, on peut situer à sa place donc le père. Mais ce n'est pas si simple, car c'est une dialectique, comme le dit Lacan, et complexe en plus. Dans la suite de la phrase donc, que je viens de citer, Lacan ajoute « Pour jouer cette fonction, donc de père symbolique. Le père intervient comme personnage réel. Et puis il ajoute, comme je, avec un J majuscule. Et ce je va devenir un élément éminemment signifiant, constituant le noyau de l'identification dernière du résultat du complexe d'Œdipe. Voilà pourquoi c'est au père que se rapporte la fonction de l'idéal du moi. Voilà, point. Alors là, c'est compliqué parce qu'il parle du père réel. Enfin, j'ai un peu du mal à saisir ces phrases-là. Le père intervient comme personnage réel et puis comme élément éminemment signifiant. C'est comment saisir ça ? Le père intervient comme personnage réel, c'est de la catégorie du réel qu'il s'agit. Et comme je, qui va devenir un élément signifiant, c'est symbolique. Bon, pour s'amuser un peu, ça se complique encore si on met cette phrase en perspective avec celle de la question préliminaire. Hein, où il dit que... à l'appel du nom du père, répond non pas l'absence du père réel. l'absence du père réel est plus que compatible avec la présence du signifiant. Mais il intervient comme personnage réel qui va devenir un élément signifiant. Enfin, bon, comment j'ai compris ça ? Je vous soumets après, on verra. L'absence du père réel, c'est l'absence du père de la réalité. Ça, c'est la question préliminaire. Ce qui convient avec le fait qu'il soit présent comme symbole. Jusque-là, ça va. Relayé par la parole de la mère. Mais le fait qu'il ne s'agisse pas du père de la réalité n'empêche pas qu'il intervienne comme personnage réel. Ça veut dire quoi ? Eh bien, pour moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Ça indique que le père a beau être un symbole, il a des effets, il a une efficacité qui ne sont pas du bluff. Cela nous amène au troisième temps de l'Œdipe. C'est le temps du père qui a, qui donne et qui fait preuve de sa puissance. C'est le temps où la relation du père et de la mère repasse sur le plan du réel, dit Lacan. Le phallus n'est pas que le symbolique. Sinon, tout s'arrêterait, faute de combattants, dit-il. Ben oui. Il s'agit cette fois du phallus réel. Le père a, il donne et il promet pour plus tard. Pour le garçon, c'est ce qui va donner le signal de l'identification à l'idéal du moi, qui est donc paternel, qui est ressorti à la part symbolique du père, à son signifiant. Pour la fille, on vous l'a dit sûrement, c'est plus simple, elle n'a pas besoin de s'identifier au père, elle va se tourner vers celui qui a, vers le père, pour l'obtenir de lui. Donc, sur le schéma R, il y a ce mouvement qui va vers le symbolique, qui va de M à E. Donc, il va en fait de M ici, le moi, vers E. Ça. Donc il va vers le symbolique. L'Œdipe donne accès au sujet à une solution pour ne pas rester coincé dans l'identification imaginaire au phallus. C'est celle de l'identification symbolique à l'idéal du moi. Donc on voit le mouvement, c'est le moi par l'Œdipe s'oriente vers le symbolique, vers l'idéal du moi, et pas justement vers le phallus imaginaire. C'est ça, là, il y a une petite barre. Ce trajet, dit Lacan, qui va de l'ourbilt spéculaire du moi en M, va permettre à l'enfant de se conquérir, de progresser. Je le cite à la page 225. « Nous assistons à un mouvement double. D'une part, l'expérience de la réalité sous la forme de l'image du corps, élément illusoire et le rend comme fondement essentiel du repérage du sujet par rapport à la réalité. » Ça, c'est ce que j'avais indiqué d'abord. Donc, l'axe IM, c'est-à-dire l'image du corps, élément illusoire et le rend, mais enfin, quand même, c'est une réalité. Et d'autre part, je suis de mes schémas, moi. Et d'autre part, cette expérience offre à l'enfant, dit-il, la possibilité d'accomplir, dans une direction contraire, ses premières identifications du moi en entrant dans un autre champ. En tant que le sujet a à s'identifier, se définir, se conquérir, se subjectiver. Il insiste vraiment pour dire ça, c'est la solution. C'est vraiment un mouvement salvateur pour l'enfant. Donc il va s'engager dans une série d'identifications signifiantes dont la direction est définie comme opposée à l'imaginaire et qui aboutit à l'idéal du moi. Bon, donc on voit vraiment le... Ça. En fait, il y a même deux mouvements. Il y en a un qui est un peu difficile à saisir. C'est... Donc la première identification au miroir, c'est quand même quelque chose qui va comme ça. Et donc, il ne va pas non plus dans ce sens-là. En fait, c'est deux. Même l'image du corps, d'une certaine façon, sert. Elle sert à quoi ? Oui, en effet, elle sert à répondre au désir de la mère. Et donc, c'est quelque chose qui tend plutôt vers le symbolique, plutôt que d'aller vers l'identification au phallus imaginaire. Donc, on voit que la solution de l'Œdipe, c'est vraiment un mouvement vers le symbolique. pour le sujet. Il faut que j'arrive au balcon. Bon. Alors, sur ce schéma, on peut situer les trois structures, psychose, perversion et névrose, me semble-t-il. C'est psychose, je l'ai dit tout à l'heure. La perversion, c'est, me semble-t-il, ce qui... La psychose, c'est être enfermé dans ce cercle, comme ça, entre la mère et l'enfant. La perversion, c'est le coinçage dans le triangle imaginaire. Et la névrose, disons, ce qui correspond, on ne sait plus dire grand-chose dans le schéma, mais... Et la névrose, c'est qui, disons, considérée quand même encore par Lacan, là, plus ou moins comme la normalité, c'est le schéma R déployé dans son ensemble, c'est-à-dire tout ce mouvement qui va de l'imaginaire au symbolique. La normalité, c'est la machine symbolique qui fonctionne à merveille et qui prend toute son ampleur. La psychose... C'est le cas s'il n'y a même pas le rapport au phallus. Il n'y a pas le père, la relation reste fermée sur la relation mère-enfant. La perversion alors, on approche du balcon, c'est quand le sujet refuse en quelque sorte de prendre le chemin qui le mène vers l'idéal du moi et qu'il choisit la voie imaginaire de l'identification au phallus comme objet du désir de la mère. Voilà. Donc, le mouvement du... La perversion, c'est celle qui va vers l'identification au phallus imaginaire. C'est au deuxième temps de l'Œdipe que se situe le problème. Le père ne parvient pas à intervenir comme personnage réel. Il ne parvient pas à séparer la mère et l'enfant, qui restent prisonniers du jeu du leur avec la mère et le phallus imaginaire. Ce qui fait que ce n'est pas le père qui l'a dans cette situation. Donc quoi qu'il a quoi, le phallus. Il semble à l'enfant que c'est la mère qui l'a, et que c'est la mère qui possède la puissance, que c'est elle qui fait la loi au père, ce qui va pousser l'enfant à s'identifier à la mère. C'est ainsi que Lacan donne la raison de l'homosexualité. Alors, j'en viens maintenant au texte de Jean Genet, Le balcon. Moi, que je ne pouvais absolument pas saisir si je n'avais pas déployé tout ça avant. Bon. Il me semble, c'est ce que je propose, que pour pouvoir saisir ce passage de Lacan et cette référence, il faut garder à l'esprit que pour le sujet, il y a deux voies possibles. Donc soit le choix du père, de l'identification à l'idéal du moi, symbolique, soit la mère, disons l'identification au phallus imaginaire. Alors cette pièce de Jean Genet, Lacan la qualifie de comédie. À savoir une représentation publique des rapports de l'homme et de la femme. Au contraire de la tragédie qui présente l'homme face à ses contradictions fondamentales, la comédie le présente en tant qu'il profite, en tant qu'il consomme, en tant qu'il jouit. Et, ajoute Lacan, la comédie manifeste le rapport du sujet à son propre signifié, comme résultat, fruit du rapport au signifiant. Voilà, avec ce que Monique nous a présenté tout à l'heure, on saisit de quoi il s'agit. La comédie assume, recueille, jouit de la relation à ce signifié qui s'appelle le phallus. En somme, dans la comédie, il est sur la scène, il n'est pas voilé. Alors, on verra à quel point hein, dans la pièce... Le balcon met en scène des personnages éminemment symboliques. L'évêque, le juge et le général. Formidable. Ils sont symboliques en tant que ce sont des fonctions qui dépassent de beaucoup celui qui se trouve en être le support. En somme, Lacan, il me semble, dit que l'habit ne fait pas le moine. Celui qui porte la bure n'est pas équivalent à la fonction qu'il représente ou qu'il occupe. D'ailleurs, on peut limoger, n'est-ce pas, ou démissionner même. Joseph Ratzinger a été Benoît XVI. Pendant 8 ans, il est redevenu Joseph Ratzinger. Ces personnages sont sur le schéma R du côté de l'idéal du moi. Le général, le juge, le prêtre. Bon. Alors, la comédie consiste à montrer qu'est-ce que c'est que de jouir de ses fonctions. Et Lacan le précise, l'idéal du moi, ce n'est pas une sublimation qui ferait taire ce qu'il appelle les fonctions enracinées dans l'intérieur, c'est-à-dire les pulsions. Pas du tout. Au contraire, la formation de l'idéal du moi, dit-il, est toujours accompagnée d'une certaine érotisation de la fonction symbolique. Moi, j'ai... c'est très actuel, et puis c'est un peu... ça devient le pont aux ânes. Mais enfin, j'ai pensé à notre ami DSK, qui n'arrête pas de rebondir. Enfin, je parle de... Cet exemple nous présentifie cette dimension de la jouissance liée au symbolique. C'est quand même... DSK occupe des fonctions éminentes. Il a presque été... Il l'a pas été, mais enfin, il était quand même président du FMI, etc. Enfin, on sent bien que... que pour l'enfant s'identifier à l'idéal du moi, ça ne veut pas dire qu'il devient une icône, enfin, ou enfin un ange. Il y a même très spécialement une érotisation de la fonction symbolique. Dans le balcon, on se trouve dans une maison d'illusion, c'est-à-dire dans un bordel. Un banquier, par exemple, vient rencontrer sa prostituée déguisée. Lui, il est déguisé en évêque. Et tout le jeu est d'obtenir de la fille la confession d'une faute. Tout ça, c'est à condition de sa jouissance, évidemment. Ce n'est qu'un simulacre, dit Lacan. Mais il faut pourtant que par quelques degrés, la vérité s'approche. Il faut que quelque chose dans l'intention de sa complice lui permettent au moins, donc à lui, de croire qu'elle participe à une jouissance coupable. Je vous fais un peu de lecture, j'espère que je vais... Je ne suis pas un grand lecteur comme ça, mais j'espère que je vais pouvoir vous faire passer ça. Quelques passages du balcon. On se retrouve donc dans une scène qui met en présence l'évêque et sa partenaire dans le bordel. L'évêque, on ne s'est pas fatigué, à peine six péchés, et loin d'être mes préférés. La femme, six mes capitaux, et j'ai du mal à les trouver. Comment, l'évêque, comment ils étaient faux ? La femme, tous vrais, je parle du mal que j'ai eu pour les commettre. Et si vous saviez ce qu'il faut traverser et surmonter pour arriver à la désobéissance ? L'évêque, je m'en doute, mon petit. L'ordre du monde est si anodin que tout y est permis, ou presque tout. Mais si tes péchés étaient faux, tu peux le dire à présent. Alors, la tenancière du bordel, Irma, qui répond. « Ah non, j'entends déjà vos réclamations quand vous reviendrez. Non, ils étaient vrais. » L'évêque. « Les péchés, tu les as bien commis ?» La femme. « Oui. » L'évêque. « Tu as bien fait les gestes, tous les gestes ?» La femme. « Oui. » L'évêque. Quand tu t'approchais de moi, tendant ton visage, c'est bien les reflets du feu qui l'illuminaient. La femme, oui, l'évêque. Et quand ma main baguée se posait sur ton front en te pardonnant. La femme, oui, l'évêque. Et que mon regard plongeait dans tes beaux yeux. La femme, oui. Furent-ils joués? La femme, et si mes péchés étaient vrais? Ah, là ça change. L'évêque. Tu es folle, j'espère que tu n'as pas réellement fait tout cela. La femme, la réalité vous fait peur, n'est-ce pas? S'ils étaient vrais, répond l'évêque, tes péchés seraient des crimes et je serais dans un drôle de pétrin. Enfin, donc on voit toute l'ambiguïté du vrai et du faux dans cette scène. C'est donc, comme dit Lacan, un simulacre, mais enfin qui joue de cette ambiguïté. Donc, dit Lacan, le sujet, pervers assurément, se complète à chercher sa satisfaction dans cette image. Dans cette image, mais dans quelle image ? Dans son image à lui, en tant qu'évêque. Hein ? Mais en tant qu'elle est le reflet d'une fonction essentiellement signifiante. Donc il s'habille en évêque Et donc, c'est cette image-là qui cherche sa satisfaction dans cette image-là. Eh bien, dit Lacan, ce dont il s'agit, c'est de la dégradation du symbolique. La grandeur des fonctions symboliques se réduit à un reflet, à une image. C'est la dégradation du symbolique à l'imaginaire. Donc, en fait, dans la perversion, disons qu'on a le... On va dans le sens inverse.
On va là-bas, comme ça. C'est l'image, le symbolique, la fonction symbolique est dégradée vers l'imaginaire.
Et Lacan propose ici une extrapolation. Genet, dit-il, représente sous le masque de la perversion le grand bordel qu'est devenue la société, caractérisé par une dégradation de la culture, par une confusion dans les rapports fondamentaux de l'homme et de la parole. On entend beaucoup, chez nous les Lacaniens, cette idée forte du déclin du père. Le père, le nom du père n'a plus les épaules assez solides pour maintenir les fonctions symboliques à leur place. Tout fout le camp, comme on dit, les idéaux, les valeurs traditionnelles, etc. Eh bien, Lacan épingle. Une fois de plus, se fait ici, dans ces pages, à partir de la pièce de Jean Genet. Et d'ailleurs, dans la pièce, dehors, c'est la révolution. On veut renverser toutes ces potiches qui ne peuvent plus garantir l'ordre symbolique. Et à quoi est réduit l'ordre dès lors ? À la police. L'ordre symbolique est réduit à la police, à l'ordre policier, donc c'est-à-dire à son maintien, comme dit Lacan, le maintien de l'ordre. C'est l'entrée en scène du préfet de police. Quand une société est envahie par le désordre, l'ordre en est réduit à son maintien. Cette figure, donc du préfet de police, Lacan la rapproche de celle du dictateur. Je le cite à la page 267. Le préfet de police, maintenant qu'il est parvenu à démontrer que lui seul est l'ordre et le pivot de tout. Vous savez, il a maté la révolution quand même. Donc, le préfet de police est parvenu à démontrer que lui seul est l'ordre et le pivot de tout. Cela veut dire qu'il n'y a rien d'autre au dernier terme que la poigne, ce qui ne manque pas de signification, pour autant que la découverte de l'idéal du moi par Freud a coïncidé à peu près avec l'inauguration en Europe de ce type de personnage qui offre à la communauté politique une identification unique et facile, à savoir le dictateur. Alors, j'approche de la fin. La grande question du préfet de police dans le balcon est la suivante. Est-ce qu'un client du bordel demande le costume du préfet de police ? Donc, vous voyez à quoi il aspire, le préfet de police. Ça se trouvait là, ici, du côté de l'idéal du moi. Est-il, lui qui a ramené l'ordre, passé au rang de potiche, c'est-à-dire de figure symbolique ? A-t-il accédé à l'ordre des fonctions respectées, puisque profanées ? Eh bien, cela n'arrive jamais. Je vous lis un passage encore, j'ai un peu le temps encore. Si vous pouvez. Le préfet de police arrive au bordel. Ça marche en ce moment ? Irma, la tenancière. Merveilleusement, j'ai eu quelques grandes représentations. Le préfet. Quel genre ? La tenancière. Carmen a le génie de la description. Interroge-la. Le chef de police. Raconte, Carmen. Toujours. Carmen. Toujours, oui, monsieur. Toujours les piliers de l'Empire. Le préfet. Nos allégories, nos armes parlantes. Et puis, y a-t-il, Carmen ? Comme chaque semaine, un thème nouveau. Ah, geste de curiosité du préfet de police. Cette fois, dit Carmen, c'est le bébé giflé, fessé, bordé qui pleure et qu'on berce. Bien, mais, dit le préfet de police. Carmen, il est charmant, monsieur, et si triste. Le chef de police. C'est tout, Carmen, et si joli quand on l'a démailloté. Le préfet. Tu te fous de moi, Carmen, je te demande si j'y suis. Carmen, si vous y êtes. Irma, la tenancière, vous n'y êtes pas. Le préfet, pas encore. Enfin, oui ou non, y a-t-il le simulacre ? Carmen, le simulacre ? Le préfet, idiote, oui, le simulacre du chef de la police. La tenancière, les temps ne sont pas arrivés. Mon cher, votre fonction n'a pas la noblesse suffisante pour proposer aux rêveurs une image qui les consolerait. Faute d'ancêtres illustres, peut-être. Non, cher ami, il faut en prendre votre parti. Votre image, elle parle d'image, hein, enfin c'est Genet qui écrit ça. Votre image n'accède pas encore aux liturgies du boxon. Bien. Lacan souscrit à l'hypothèse de Jean Genet. L'image du préfet de police n'est pas élevée à une noblesse suffisante pour qu'aucun des petits vieux qui viennent dans le bordel demande à avoir ses ornements. D'ailleurs, il n'y a pas d'uniforme de préfet de police comme il y a ceux du juge, de l'évêque ou du général. En désespoir de cause, le préfet de police propose une sorte d'uniforme. Là, ça devient fort. Il propose une sorte d'uniforme et aussi bien de symbole qui serait celui de sa fonction. Il propose rien de moins qu'un phallus. Je ne peux pas résister à vous lire encore un petit passage. Le préfet. Je crois que la victoire, nous tenons la victoire. Donc il a maté la révolution. Je peux m'asseoir ? L'envoyé, c'est un envoyé du palais qui répond. Non, personne n'est encore venu, personne n'a encore éprouvé le besoin de s'abolir dans votre fascinante image. Là, on comprend de quoi il s'agit, hein. Donc il répond donc au souci continu du préfet. Est-ce que quelqu'un a demandé mon costume ? Le préfet, les projets que vous m'avez soumis ont donc peu d'efficacité. Rien, personne. Irma, donc la tenancière, personne. Pourtant, on a refermé les persiennes, les hommes devraient venir. D'ailleurs, le dispositif est en place et nous serons prévenus par un carillon. L'envoyé, mon projet de ce matin vous a déplu. Or, c'est cette image de vous-même qui vous hante et qui doit hanter les hommes. Le préfet, inefficace. L'envoyé, le manteau rouge du bourreau et sa hache. Je proposais le rouge amarante et la hache d'acier. Irma, salon 14, dit salon des exécutions capitales, déjà représenté. Le juge, on vous craint cependant. Le préfet, j'ai peur qu'on craigne, qu'on jalouse un homme, mais non, une ride, par exemple, ou une boucle de cheveux, ou un cigare, ou une cravache. Le dernier projet d'image qu'on m'a soumis, j'ose à peine vous en parler. Le juge, c'était très audacieux. Le préfet, très, trop. Jamais je n'oserais vous le dire. Soudain, il semble se décider. « Messieurs, j'ai assez confiance dans votre jugement et dans votre dévouement. Après tout, je veux mener le combat aussi par l'audace des idées. Voici, on m'a conseillé d'apparaître sous la forme d'un phallus géant, d'un chibre de taille. » Voilà. Ça, donc, c'est le mouvement vers l'identification imaginaire au phallus. Il est le phallus. On le voit, enfin... On voit aussi bien l'impasse que le côté grotesque de la chose. Et là, coup de théâtre. On est là pour ça, théâtre. On apprend qu'une des figures de la Révolution, un héros, je vous passe les détails, est venu au bordel et a demandé tout ce qu'il fallait pour ressembler au personnage du préfet de police. Donc pas déguisé en phallus, mais vraiment le préfet de police. Il ne faut pas oublier que la Révolution a été matée par le chef de la police. Le révolutionnaire a perdu la bataille. Il a aussi perdu son amour, une ancienne prostituée du balcon. En somme, il vient rendre hommage au préfet de police qu'il a vaincu. Et pour ce faire, il se châtre. Le préfet exulte, il a gagné, non sans vérifier, un moment, qu'il a encore tout ce qu'il faut. Il est devenu une icône, il peut s'enfermer dans un tombeau et rejoindre le panthéon des potiches. Lacan conclut ainsi. Le passage du préfet de police au rang de symbole sous la forme de l'uniforme phallique est devenu inutile. C'est-à-dire qu'il peut maintenant se passer de l'identification imaginaire au phallus, car la castration a fait son œuvre et a fait passer le phallus au symbolique, comme ce qui peut être donné ou retiré par celui qui se confond avec l'image du créateur du signifiant, dit Lacan, le nom du Père. Et donc, ce qui se joue ici, me semble-t-il, rejoint donc dans cette pièce de théâtre, rejoint le mouvement qui va non plus vers le phallus imaginaire, mais vers l'idéal du moi, vers Granti. Bon, voilà. J'étais un peu long.
Merci. Bien, ouais, je vais vous laisser réfléchir aux questions. Moi, je vais essayer d'en poser. Ce n'est pas facile. En écoutant Monique Kusnirek et en reprenant peut-être une note que j'avais faite dans le séminaire, lorsque vous en arrivez à extraire le fait que le phallus est le paradigme même de la signification, donc que l'articulation du signifiant produit une signification et que le phallus en tant que signifiant est le paradigme de la signification. Je me posais la question du lien de ça à... par rapport à l'époque de séminaire chez Lacan, comment est-ce qu'on pouvait mettre ça en lien à la fin de l'analyse ? Est-ce que ce serait vers le signifiant ultime ? Enfin, voilà.
Oui. Le signifiant phallus, le signifiant de la signification, c'est aussi le signifiant de la signification qu'est le désir. Parce que le désir est une signification. Bon, enfin, alors, le lien avec la fin de l'analyse, bon, je pense qu'il faut regarder dans le texte la direction de la cure, où la fin de l'analyse est reprise à partir de la déphalicisation. C'est pas la production d'un signifiant ultime, c'est, je pense, c'est ça dans la direction de la cure, c'est un processus de déphalicisation. Il faut reprendre le texte, évidemment, pour argumenter ça. Je n'ai pas ça en tête. Le signifiant de la signification, ce n'est pas un signifiant ultime. Hein. C'est précisément le manque de signifiant pour dire le désir, au fond. Le désir, ça ne se nomme pas. On ne peut pas dire ce que... On ne peut pas demander à quelqu'un de définir son désir. C'est de l'ordre du manque à être. Le produire des signifiants ultimes, mais produire des identifications fondamentales, ça se trouve plutôt dans la période ultérieure, il me semble. Il y a non seulement produire des signifiants fondamentaux, mais qui permettent, une fois produits, au-delà du signifiant, d'appréhender l'objet qu'on se fait être pour l'autre. Mais ça, c'est le séminaire 11, c'est la suite. Maintenant, se déphaliciser, ça, pour produire la déphalicisation, comment on dit, enfin bon, il faut bien sûr vider un certain nombre d'identification qui recouvrait cela.
Merci. Alors peut-être une question pour Guy. D'abord, je trouvais que avec l'articulation au schéma, ça devenait très sensible, ce mouvement inverse, névrose, perversion, que vous avez mis en évidence ici avec les schémas. Et Une question peut-être un peu à côté, mais peut-être aussi en pensant au colloque qui aura lieu à Athènes sur les geeks. Je me demandais, au fond, dans tous les jeux auxquels les jeunes ont accès actuellement, et donc les jeux sur Internet, sur ordinateur, etc., lorsqu'ils étaient mis en position d'être un sujet du jeu qui outrepasse toutes les lois, puisqu'il y a des jeux où le but est vraiment celui-là. Au fond, est-ce qu'on mettait le sujet en situation de perversion? Voilà.
C'est compliqué parce que je me rappelle de quelqu'un qui faisait une réflexion à propos des jeux et que ce qui était aussi terrible dans les jeux, c'était qu'on pouvait toujours faire reset. C'est-à-dire qu'en effet, on peut prendre beaucoup de risques, mettre beaucoup de choses en jeu, mais tout le temps il y a la fonction reset. Donc c'est-à-dire on peut toujours remettre les choses à zéro d'une certaine façon, et c'est comme si c'était pas pour de vrai. Maintenant, ça veut pas dire que pour autant c'est une question de perversion. Moi, je trouve que dans ce rapport à ces jeux, c'est plus Oui, c'est vrai, il y a quand même le rapport à l'imaginaire, quand même à l'image, qui est très importante, mais plus presque, il y a quand même un rapport au corps aussi qui est en jeu, qui est un appareillage du corps. C'est-à-dire que ces objets que sont les jeux vidéo, mais aussi les téléphones, portables, les iPad, iPod, machin truc, enfin tout ça sont des trucs qui accroche le corps surtout. Enfin, je veux dire, les jeunes se complètent d'une certaine façon de ces objets-là. C'est une part de libido est localisée dans la machine. Bon. Alors, est-ce que c'est pervers? Je sais pas. Moi, j'ai pas tendance à dire ça, mais je sais pas. Philippe, vous voulez dire quelque chose?
Dans ce que tu dis justement, ce qui est intéressant, c'est peut-être pas d'être pervers ou pas, c'est que ce soit un succès d'année, un ersatz. Hein? D'ailleurs, dans ce que vous avez dit l'un et l'autre, c'est une dimension, l'ersatz. On peut même faire le jeu de mots, la réalité psychique, on entend dans psychique chiqué. Hein? Miller a fait ce jeu de mots, le psychique, c'est le psychiqué. Et effectivement, on est dans l'ordre du succès d'année avec l'affaire de Genève. L'affaire de Genève, est-ce que c'est vrai? Enfin bon, c'est un succès d'année. Elle démontre ce que c'est que le plaisir en tant qu'il est passé. Enfin, ce que c'est que l'érotisation du signifiant, pour le dire comme ça. On est dans l'ordre d'un semblant. C'est peut-être pas pour de vrai, mais ça fait jouir quand même. Et ça, dès lors qu'on peut faire l'amour dans le costume du préfet de police, et qu'il y en a un, évidemment, ça rend déjà le préfet de police une fonction un peu plus érotisée. À l'époque où je n'ai écrit ça, le préfet de police, c'était quand même à Paris, c'était quand même quelque chose. Tu étais préfet de police, tu n'avais aucune chance de devenir président de la République. Maintenant, ça a un peu changé, ils sont populaires. Mais seulement, alors, par rapport à Monique, est-ce que c'est dans le fond, est-ce qu'on ne peut pas dire ça aussi? Les trois temps de l'enfant est battu. Est-ce qu'il n'y a pas pour dire deux satisfactions différentes, justement? Une qui est de l'espèce un peu succès d'année, c'est-à-dire le premier et le troisième temps, c'est quelque chose qui passe dans le signifiant, qui a l'érotisation du signifiant, donc quelque chose quand même plus symbolisé, donc plus supportable. Et avec ce qu'il dit du second temps, où là, on a quand même le second temps, là c'est vraiment la, on pourrait dire la jouissance pure et dure, mais tellement pure et dure qu'il n'y a personne pour la dire. Personne ne peut la dire. Freud va chercher seulement une satisfaction qui existe manifestement. C'est l'enfant qui est battu par le père, mais ce deuxième temps, personne ne peut le dire. Donc c'est vraiment le point où il y a le culmen d'une satisfaction, mais sans sujet pour en dire quelque chose.
On peut dire ça, mais seulement c'est pas ce que Lacan dit. C'est pas comme ça qu'il le saisit et qu'il le comprend. Ah oui, il dit que... Ouais, ben dis-moi.
Page 242, justement, je vais me poser cette question parce que justement, il fait remarquer dans le deuxième temps, page 242, il dit voilà, c'est un message qui ne parvient pas. Il dit ça du second temps.
Oui, tout à fait.
C'est pour ça que l'attention.
Donc, tu distingues deux types de satisfaction, l'érotisation du signifiant et la jouissance, quoi.
Il n'y a pas de signifiant.
Bah, alors, moi, ça me faisait. Je vais partir de l'évêque. Par exemple, de l'évêque. Ah. Alors, Lacan, son commentaire, il dit que c'est une dégradation du symbolique. Maintenant, quand il dit ça, c'est-à-dire qu'il dit que c'est de la jouissance imaginaire. C'est pas de la jouissance dans le corps, ça. Ce qu'il dit. Maintenant, on peut très bien imaginer un signifiant évêque ou un signifiant policier, ou un signifiant juge, qui vous percute le corps. Tu comprends ce que je veux dire? Bon, par exemple, quelqu'un me disait qu'il a épousé sa femme, que sa femme pour lui c'est un juge, et que c'est pour ça qu'il l'a épousée. Et il est pétri de culpabilité, mais de culpabilité jusque dans son corps. En fait, ça a un effet dans le corps. Alors, il y a le signifiant qui fait un effet dans le corps. Lacan ne dit pas ça. Il ne dit pas ça parce qu'il ne peut pas le dire à ce moment-là. Quand la satisfaction dont il s'agit là avec l'évêque, se déguiser en évêque, c'est une satisfaction de l'ordre imaginaire. C'est pas une satisfaction réelle de jouissance du corps. Eh bien, je pense qu'à propos d'un enfant ébattu, il ne dit pas qu'il y a jouissance qui revient dans le corps. Il ne le dit pas. Il dit, il y a des différents temps, et le deuxième temps, c'est, il y a une certaine, comment il dit ça, c'est libidinal. Mais ce dont il parle, c'est de l'amour du père. Il n'y a pas là un signifiant qui indexerait le père et qui viendrait... maintenant, s'il mettait l'accent sur le fait que père, ça veut dire coup, battu, alors oui, ce serait une jouissance qui revient dans le corps. Mais il dit que père, là, c'est celui qui m'aime. Et je transforme ça, c'est vraiment une transformation signifiante, il met l'accent là-dessus. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas ça pour une fille. Que père, ça veut dire être battu dans le corps. Mais Lacan met l'accent sur la transformation. Il dit qu'au fond, il y a une érotisation du fait d'être aimé par le père qui est transformée en culpabilité parce que c'est coupable, qui est transformée en être battu parce que c'est coupable. C'est-à-dire qu'il fait... C'est une métaphore, en fait. Ce qui ne veut pas dire que chez ce sujet-là, il n'y ait pas quelque chose qui marque son corps dans le fait d'être battu. Le fermier d'André, dont je me suis souvenu tout à l'heure, c'est une chanson, c'est du signifiant. Mais quand on associe ça au fromage qui est battu,
le signifiant s'associe à quelque chose qui frappe le corps. Enfin, voilà.
Oui, c'est ce qui est le tour de force dans ce séminaire, c'est qu'il parle de quelque chose qui concerne éminemment le corps et le plaisir du corps, et il se maintient quand même dans les...
Dans l'explication, ça n'a rien à voir avec...
Oui, oui.
Si il y a la satisfaction, ce n'est qu'imaginaire. La satisfaction est imaginaire. C'est une dégradation du symbolique. Mais il y a satisfaction érotique.
Il l'évoque quand même, oui, c'est vrai. Par contre, au début de la séance que commentait Guy, par exemple, il a ce passage tout à fait saisissant. C'est pour ça aussi, pour cette question, il ne développe pas, il la lance, il dit voilà, on évoque ici le désir. Enfin, on voit bien que l'amour et le désir ici, c'est ce qui permet de symboliser déjà quelque chose qui, dont il ne s'occupe pas, qui laisse le côté, qui est la jouissance. Mais paf, 252, il la cite. C'est la seule occurrence, d'ailleurs, des deux leçons. Mais il le dit. Ce sera l'autre pôle de notre discours d'aujourd'hui. Elle s'appelle la jouissance. Et puis,
après,
il s'en rapproche un peu et puis il ne revient pas. C'est ça qui est saisissant.
Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est ce mouvement-là par rapport à... Parce que... Allez,
à la fin.
Deux formules. À la fin de son enseignement, il dira que la pulsion, c'est un écho du dire dans le corps. Ici, la pulsion, elle revient dans le signifiant. Fouet. C'est toute la différence. Enfin, on dit tout ça à cause de cours de Jacques Amiel, où le signifiant, au fond, dans le... dont il s'agit ici, c'est celui qui s'articule à un autre signifiant. C'est pas celui dont l'autre a le corps, qui percute le corps. Et tout est... Alors, par exemple...
Ce qui est intéressant à montrer aussi, c'est que lorsqu'il articule ici, je voulais insister, c'est que tout ce montage signifiant, eh bien, introduit une satisfaction. Alors, il est vague sur la nature de cette satisfaction. Hein, il ne dit pas encore qu'il n'a satisfaction que dans le corps. Ça, il ne le dit pas comme ça. Hein, il postule une satisfaction qui est liée au signifiant. Et dans le fond, ça restera. Au contraire, il va m'accentuer ça. C'est très frappant de voir dans cette leçon à quel point le signifiant dégage non pas une satisfaction. Il parle même d'érotisation du signifiant. Alors, comme il la qualifie de dégradation. À l'époque, disons qu'il c'est un séminaire, donc de temps en temps, il chipote. Mais en tout cas, c'est frappant de voir à quel point le signifiant ici introduit aussi une satisfaction. Dans l'enfant abattu, il l'évoque comme une satisfaction, l'amour, le désir, enfin, il la nomme comme il peut, mais en même temps, c'est une satisfaction qui est liée au signifiant. Voilà. Voilà.
Voilà.
Je voulais insister sur la dimension. Satisfaction du signifiant, ça me paraît, moi. C'est déjà frappant de voir ici, parce que c'est simplement que...
Mais il me semble qu'on utilise le terme satisfaction symbolique, érotisation des signifiants. Ici, le titre du chapitre, c'est « Désir et jouissance », et donc il me semble que vraiment, c'est pour les opposer. Et donc, on mettrait, si on utilise le schéma R encore, qu'on mettrait le désir de ce côté-ci, donc comme métonymie de la chaîne signifiante, et qu'on mettrait donc ici la jouissance, donc liée quand même à la question de l'imaginaire, une jouissance imaginaire liée au phallus. Enfin, c'est vraiment tout le développement du chapitre. Et alors, il revient sur le terme de jouissance tout à fait à la fin du chapitre, je vais te dire. Si, il dit, voilà, ces termes que je reprendrai nous serviront de repère dans la question essentielle du désir et de la jouissance, dont aujourd'hui j'ai voulu vous donner... le premier gramme.
Bon, ben, il est en même temps un peu tard. Je propose d'en rester là alors et on se revoit fin du mois d'avril. Merci beaucoup à Monique Kusnirek et Guy Poblum.